Vous êtes bien sur Radio La. Radio La, la radio qui est toujours.
Alors, que faut-il que je fasse? Vous me tendez la micro, qui m'a plutôt l'air d'une balayette. Bon, il est vrai qu'à mon âge, tout change. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte?
Alors, Elisabeth, bonjour.
Je vais vous demander de parler plus fort.
Elisabeth, bonjour.
Bonjour, Lionel.
Alors, nous sommes aujourd'hui réunis chez vous. Merci de m'accueillir chez vous pour faire une interview bridge.
Parfait. Bon, le bridge, je connais, c'est un jeu que j'aime infiniment et que je pratique depuis des années et des années.
Alors, première question. Comment vous êtes tombé dedans?
Mon père était un très très grand bridgeur. Parce qu'il faut se replacer dans le contexte des époques. Bon, à part la lecture, les visites entre voisins, parfois le cinéma, c'était des lendemains de guerre, hein, faut pas oublier. Pendant la guerre, il n'y avait rien, bon, de toute façon. Et les lendemains de guerre, etc. Alors, bon, papa bridgeait pour passer le temps, comme beaucoup de gens à l'époque. Si ce n'était pas le bridge, c'était un autre jeu de cartes. Mais dans un certain milieu dont je faisais partie, c'était le bridge. Alors, le bridge est un jeu qui se joue à deux équipes.
Excusez-moi, Elisabeth, on bridgeait où?
À la maison.
Ah ouais.
Oui, à la maison. Bon. Et pour être sûr d'avoir toujours quatre personnes sous la main, parce que je répète, le bridge est un jeu qui se joue à deux équipes, deux contre deux. En cas de défaillance, il m'avait imposé d'apprendre le bridge pour être sûr d'avoir un quatrième sous la main. Et comme à l'époque, il fallait obéir, et bien j'ai obéi. Et j'avais 12 ans.
Vous avez commencé à 12 ans? Oui, sans compter les parties avant de toute votre, j'imagine, votre année.
Sans compter les parties de belote. Il y avait que la belote d'ailleurs, parce que il ne me souvient pas avoir connu d'autres jeux que la belote.
Mais c'était avant tout le bridge dans votre famille?
Pardon?
C'était avant tout le bridge dans votre famille ou...
C'était avant tout le bridge, oui. Jeu très très intellectuel, qui développe bien les neurones, la mémoire, et un jeu de stratégie très 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 difficile. Et c'est le seul jeu de cartes, parce que maintenant je les connais à peu près tous, y compris la canasta. Oui, c'est vrai qu'on jouait un peu à la canasta à l'époque. C'est un jeu qui est totalement différent des autres jeux de cartes, parce qu'on peut faire ce que l'on veut, sauf ne pas fournir à la couleur. Il faut impérativement fournir à la couleur. Après ça, vous coupez, vous ne coupez pas, vous vous défaussez d'une autre carte. C'est un jeu qui est très libre, finalement.
Et donc, si je comprends bien, c'est votre père qui vous a initié à...
Tout à fait. Comme mon père m'a appris à conduire.
D'accord.
Voilà. Alors, évidemment, j'avais très peur. Parce que apprendre avec son papa... Mais non, il était très patient, autant impatient dans la vie, dans son rôle de pédagogue. Très, très patient. Et ça s'est très, très bien passé. J'y ai pris goût, très, très vite. Et puis, j'ai toujours continué à jouer au bridge. Parce que, étudiante à Paris... Bah, nous jouions au bridge aussi avec mes amis. Une fois mariée, j'ai initié mon mari au bridge, qui a joué quelques années avec moi. Mais comme je gagnais toujours, parce que j'avais une longue avance devant lui, s'est vexé et a fini par ne plus vouloir jouer parce que son ego surdimensionné n'acceptait pas que je le gagne. Mais j'ai toujours continué à jouer avec des amis et je suis allée dans des clubs de bridge.
Ah oui.
Et oui, mais je n'ai pas continué très très longtemps les clubs de bridge parce que l'atmosphère est désagréable. J'ai eu tout de suite l'impression que l'on jouait sa vie.
Ah oui, c'est la compétition.
La compétition, la tricherie.
Ah oui.
À tel point qu'il est arrivé un moment que j'ai connu avant de quitter les clubs, nous n'avions plus le droit de parler. On nous mettait des cartons pour annoncer le contrat que l'on désirait faire. Je vais vous donner un exemple. On voulait jouer pique, par exemple. On sortait le carton, il y avait marqué pique. Il était interdit de parler parce qu'on a été obligé de mettre dans les clubs des experts et un peu comme au lycée, des pions, des surveillants, pour éviter les tricheries.
Alors c'est marrant parce que j'imaginais pas du tout qu'un club de bridge puisse être comme ça. Pour moi, un club de bridge, on discute, on échange, on parle de la vie, on refait la vie.
Oh, pas du tout, pas du tout. Je vous l'ai dit là à l'instant. Ils viennent là, ce sont... J'assimile ça à des intégristes, des drogués. Ils viennent là, on dirait qu'ils jouent leur vie. Ils viennent pas là du tout pour s'amuser.
Parce que j'ai eu l'occasion... d'assister à un tout petit bout de partie que vous meniez chez David. Et là, c'était vraiment quelque chose, c'était un vrai voyage, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos parties de bridge, à vous, les parties de bridge à la Elisabeth.
Oui, mais parce que c'était chez des amis intimes, et que c'était en particulier. Mais quand vous allez dans un club, vous êtes confronté à des gens que vous ne connaissez pas. Et je vais vous raconter une anecdote. Un jour, bon, je dis, tiens, je vais aller m'inscrire à un club de bridge qui n'est pas loin de chez moi. À ce moment-là, il se trouvait derrière le jardin public.
Ouais.
Bon, mais les parties étant le soir, je ne voulais pas rentrer seule. Et j'avais prévenu le directeur que je m'inscrivais. D'une part, il faut que je fasse une parenthèse, c'est très cher les inscriptions.
Ah ouais.
Après, vous êtes obligé de prendre une consommation.
Ça coûte combien l'inscription ?
Ben, écoutez, à l'époque, la dernière consommation, je parle en francs, c'était 8 euros.
8 euros ?
8 euros pour... c'était une bière ou je ne sais pas quoi. Bon, je ne me souviens plus. Bon, quant à la cotisation annuelle, elle était très très chère. Bon, enfin bref,
ouais.
Je décide de m'inscrire et je préviens le directeur du club qu'il faudra quelqu'un pour me raccompagner. Mmh. Il me dit, pas de problème, je vous trouve un partenaire, un partenaire, pas une partenaire.
Pourquoi ?
Vous allez comprendre après. Un partenaire qui vous raccompagnera. Vous habitez sur son chemin, il n'y a pas de problème. Bon. Je m'étais bien gardée de dire que je jouais au bridge depuis des années et des années. Alors il me demande, de quelle force êtes-vous ?
De quelle force ?
Ah, j'ai dit, je suis d'une force moyenne. Et c'est tout. Bon. Alors nous commençons la partie. Et au cours de la partie, je me rends compte que mon jeu... accompagné de celui de mon partenaire, le fameux monsieur qui devait me raccompagner, nous permettait de demander le maximum, c'est-à-dire le schlem. C'est-à-dire qu'au bridge, il y a, vous jouez la couleur, vous jouez sans atout, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupe, ou vous jouez le petit schlem ou le grand. C'est-à-dire le petit schlem, vous avez dans la main donc 13 cartes. Mmh. Le petit chelem, il faut faire les 12 levées. Le grand chelem, il faut les faire toutes, les 13 levées. Donc, mon partenaire demande le petit chelem. Et moi, je me rends compte, faisant le compte de ses points et des miens, puis voyant la forme de mon jeu, qu'il y avait le grand chelem. Mmh. Et comme nous parlons à tour de rôle, les partenaires, jusqu'au moment où on définit le contrat, je lui ôte le petit chelem pour demander le grand. À ce moment-là, j'ai la gueule. Parce qu'il ne croyait pas qu'il y avait le grand. Il s'est dit, on va perdre. Et je répète, lui, dans sa tête, il allait perdre aussi la vie.
Ah ouais, à ce point-là.
Parce que c'est comme ça, la mentalité des clubs. Nous jouons, et naturellement, la mère Mancini que vous avez devant vous, elle fait le grand chelem. Au lieu d'être content, le bonhomme fait encore plus la gueule. Nous continuons à jouer et à la fin de la soirée, au moment de rentrer chez moi, je dis au directeur, bon bah dites à mon partenaire que puisqu'il est, nous sommes convenus qu'il me raccompagnera, Il appelle mon partenaire, il lui dit, bon bah tu raccompagnes madame Mancini. Et l'autre lui dit, ah non, je ne veux pas la raccompagner. Il a refusé de me raccompagner. Tellement il était vexé qu'une femme ait gagné.
Et alors, vous êtes rentrée toute seule ?
Non, je ne suis pas rentrée toute seule parce que moi, je sais me défendre. Hein. Vous savez, il ne faut pas m'embêter, moi. Hein. Je suis une fille de la guerre. Hein. Bon, mais c'est pour vous dire l'atmosphère. Alors, je me suis dit, bon, ben, c'est la dernière fois que tu tentes de jouer dans un club. Ce qui posait ne m'a pas empêché, lorsque je suis en vacances, en Italie ou en Espagne, de jouer partout. Parce que tout ceci, pour peu qu'on veuille. Et on sait qu'il y a une Française qui arrive et qui joue au bridge. Oh là là.
Alors c'est recherché.
Oui, c'est très recherché. Et on m'invite. Alors il m'est arrivé de jouer même en Espagne, chez des Anglais qui ne parlaient pas un mot de français. Moi, je ne parle pas. Je ne sais pas que je ne parle pas un mot d'anglais, mais enfin, j'ai oublié depuis le lycée. Bon, mais ça ne fait rien. J'ai joué toute ma vie et je continue à jouer jusqu'au moment où les années ont passé, et les activités physiques me sont interdites, vu mon âge et mon état de santé, et je développe encore plus les activités artistiques et intellectuelles, le bridge.
Parfait. Il y a une question que je me pose, en tant qu'enfant de 12 ans, quand on vous apprend à jouer aux cartes, vos parents vous apprennent à jouer et puis après vous débrouillez, ils vous laissent tout seul. Vous, vos parents, votre père, ils vous invitaient dans des parties avec des adultes et vous avez pratiqué avec des adultes de
oui,
suite.
Oui, tout à fait.
Ah, c'est rare ça.
Oui, mais j'avais un père terriblement intelligent. Et puis une mère aussi.
Ça a dû vous faire grandir beaucoup plus vite, j'imagine.
Je pense. Et nous étions 4 enfants. Ma mère a eu 7 enfants, elle en a perdu 3, mais à l'époque, on en refaisait d'autres. Hein. On n'était pas aussi... Enfin bref, passons. Et alors, 4 survivants, et je suis la seule qui a été mise à contribution pour le bridge. Parce que papa avait compris que je m'y mettrais très vite. Voilà, il me voyait très bien, il me voyait comme j'étais. Oui. Voilà l'histoire, pourquoi je suis une grande, grande bridgeuse. De cœur.
Ouais. J'ai pu vous voir à l'œuvre.
J'ai essayé de donner des leçons à des jeunes.
Alors moi, Elisabeth, excusez-moi de vous interrompre. Ce que j'ai vu de vous au bridge, j'étais assez admiratif parce que vous avez une autorité juste et dans l'autodérision et en même temps c'est sec mais c'est juste. On ne badine pas. C'est-à-dire que vous aviez en face de vous quand même un couple d'amis à vous, plus David. Vous aviez 3 personnes et personne ne bronche. C'est écrit. C'est comme ça, c'est Elisabeth, le patron, mais c'est un vrai patron. C'est-à-dire que vous avez un rôle à la fois de dire « Eh oh, là, vous faites une connerie », et en même temps, vous donnez des conseils de jeu, etc. Et en même temps, on parle surtout de la vie. Et qu'est-ce qu'on rigole ?
Ah, ben
c'est un moment, plaisir. C'est un moment de partage qui est vraiment agréable à vivre.
Vous me faites plaisir parce que je sais comment je suis. Je suis très très régulière, très très sévère entre guillemets. Avec moi, faut travailler. Mais j'ai toujours peur de blesser.
Non, vous êtes très juste, je trouve, dans votre rôle de patron. Moi, je vous appellerai le patron au bridge. Vous êtes très juste.
Ça me fait plaisir.
C'est pas cinglant, vous voyez.
Oui, ça me fait plaisir parce que, outre le bridge, j'ai été réclamée.
Et vous savez pourquoi, excusez-moi, vous savez pourquoi, ce qui me fait dire ça ? C'est parce que quand vous dites quelque chose, il y a un blanc. Et le blanc, ça veut dire que les gens, ils vous écoutent, ils vous respectent. Et ils écoutent votre parole, ils savent que vous y connaissez en la matière.
Ah ben, en principe, je ne me permettrai pas de donner des leçons d'une chose que je ne maîtrise pas. Mais le bridge, vous pensez bien, je suis dans ma 83e année, j'y joue depuis l'âge de 12 ans, mais alors régulièrement, hein, vous pensez bien que je le maîtrise parfaitement, le bridge. Bon, pour le reste, je ne me permettrai pas. Ceci posé, c'est curieux, l'être humain. Je me suis occupée, on m'a demandé d'ateliers pour enfants en difficulté.
Ah, très bien.
Pour le théâtre, bon. Et j'avais un peu peur parce que c'était des adolescents. Mais quand je dis en difficulté, hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller en prison parce qu'ils sont trop jeunes. Je me suis dit, comment ça va se passer? Eh bien, ça s'est très très bien passé. Je n'ai eu aucun problème avec eux. J'ai un don, celui de pédagogue. J'ai le don de la pédagogie. Et je me suis toujours dit, concernant mon propre métier de comédienne, mais ça, c'est moi qui le dis, les gens protestent et disent que non, mais moi je reste persuadée que je suis meilleure pédagogue que interprète.
Je vois ce que vous voulez dire, je vous connais un petit peu, je vois ce que vous voulez dire.
Vous voyez ce que je veux dire?
Enfin, moi je vous ai vu faire les deux, interpréter.
Vous m'avez vu interpréter?
Oui, je vous ai vu interpréter à Paul's Place, vous avez improvisé un texte. Vous avez été la seule personne de la soirée, il y avait au moins une quinzaine de personnes qui ont lu des textes. Vous avez été la seule personne à dire un texte par cœur.
Ah oui, oui, ça aussi. C'était l'époque, Lionel. Il fallait apprendre par cœur. Il fallait travailler, quoi, c'est tout. Attends, je vais le faire moi-même. Merci.
Excusez-moi.
Là aussi, à Paul Pless, j'ai essayé de leur faire comprendre que pour faire vivre leur texte, il fallait l'animer par la parole. Parce que la parole, c'est comme la note de musique, le mot. On peut y mettre une modulation, comme en musique, sur la note, le dièse ou le bémol. Quand vous lisez un texte, vous vous croyez à l'école. Mais Paul Pless, on n'est pas à l'école. On est ce qu'on appelle pompeusement le salon de la poésie. Bon.
Je ne savais pas.
Vous ne le saviez pas.
Le salon de la poésie.
Ouais. Moi, j'appelle ça le cercle des poètes qui, hélas, ne sont pas disparus. Je suis dur, hein.
Moi, je trouve pas.
Voilà. Bon, ceci dit, j'y prends beaucoup de plaisir aussi. Bon, et puis les gens sont comme ils sont. Ils n'ont pas eu cette chance que j'ai eue. Cette chance, si l'on peut dire, parce que, comme vous le savez, j'ai passé la guerre à Amiens, aux premières loges. C'était pas rigolo du tout. Bon, et puis je suis issue d'un milieu médical où j'étais aux premières loges pour voir arriver les morts sur des brouettes et les blessés à qui manquait une jambe, un bras et qui hurlaient de douleur et le sang qui pissait. Moi, mes yeux d'enfant n'ont vu que ça. Bon, donc c'est ce qui m'a donné peut-être cette force.
Ouais, certainement, oui.
Voilà. Alors, mais c'était une époque où il fallait travailler. On apprenait par cœur. Et puis on faisait ses devoirs. Et puis on obéissait, bon gré mal gré. Et puis c'était comme ça, c'était pas autrement. Voilà. Bon, mais moi j'ai eu cette chance de naître dans ce milieu super, super intelligent où mon éducation a été spartiate, mais elle a été entourée de tant d'amour et d'intelligence que cette fermeté ne m'a pas gênée du tout. Voilà, au contraire, je dis merci à mes parents. Hein. Je leur dis merci parce que, bon, après, ben, les parents s'en vont, comme vous le savez, et vous vous retrouvez seul. Et ben, vous vous retrouvez confronté au drame de la vie parce que vous ne pouvez pas passer une vie sans connaître les drames. Hein. Ben, si j'avais été comme les enfants de maintenant, hein, qui baissent les bras au premier coup dur, ben, je peux vous dire qu'il y a longtemps que je me serais jeté dans la Garonne. Hein. Mais l'autre froide, je ne le ferai pas. Puis je ne sais pas nager.
Ah bon?
Non. Bah, vous me faites rigoler. Bien sûr que non, je ne sais pas nager. On ne faisait rien à notre époque, enfant de la guerre. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas de piscine municipale, il n'y avait rien.
Vous auriez pu avoir un lac à côté de chez vous, je ne sais pas.
J'aurais pu avoir quoi?
Un lac?
Oui, mais à Amiens, il n'y avait pas de lac.
D'accord, à Amiens.
Il n'y avait pas de lac.
Effectivement.
Il n'y avait qu'un lac de larmes. C'est tout ce qu'il y avait à Amiens. Et puis alors, des chandruines, un chandruine. Bon, parce que quand les Allemands ont violé le traité de neutralité de la Belgique et ont traversé la Belgique comme ça, sont arrivés tout de suite à Amiens, le premier truc qu'ils ont fait, c'est d'y foutre le feu.
Ah bon?
Allez savoir pourquoi, on ne saura jamais, mais ils étaient comme ça. Je pense que parce que... Mais là, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire. On parle du bridge.
C'est vrai.
Bon. Alors, donc, je répète, pourquoi
Le bridge, c'est la vie, hein, c'est...
Non, le bridge,
était pas bonne, celle-là.
Réservé au... Ce qu'on appelle, avec un sentiment que je sens toujours et qui me dérange, avec un sentiment péjoratif, qu'on appelle les bourgeois. Je faisais partie d'une famille bourgeoise. Bon. Eh bien, on apprenait à jouer au bridge au lieu d'apprendre à jouer à la belote, même si on savait jouer à la belote.
Parce que la belote, c'était plus pour le peuple.
Voilà. Ouais. Alors, on se demande pourquoi
et alors,
d'ailleurs.
Et le tarot, c'est fait pour quoi? Pour les intellectuels?
Le tarot est déjà un jeu beaucoup plus intellectuel et il est à mi-chemin entre la belote et le bridge. Parce que le tarot, il y a quand même pas mal de combinaisons à faire. Je joue aussi au tarot, hein. J'ai joué aussi beaucoup, mais ça beaucoup plus tard. J'ai joué quand j'étais prof d'art dramatique en Charente-Maritime, où là aussi j'étais la seule femme confrontée à des hommes, ben c'était pas rigolo, mais enfin, moi je suis pas comme les femmes de maintenant, là, au gouvernement. Qu'est-ce qu'elles attendent pour retourner une baffe, hein?
C'est sexiste, le bridge?
Ça va c'est quoi?
Est-ce que c'est sexiste, est-ce que le milieu est...
Ah ben, écoutez, je viens de vous le raconter, ce bonhomme qui a refusé de me raccompagner parce que j'avais demandé le grand.
Non, il y a si peu de
le petit et qui s'est vexé et qui n'a pas voulu me raccompagner. Bien sûr, c'est sexiste.
Oui, excusez-moi. Mais il y a si peu de femmes qui jouent au...
Non, détrompez-vous. Il y a beaucoup de femmes qui jouent
d'accord.
Au bridge. Beaucoup de femmes qui jouent au bridge, qui s'y sont mises, oui. Oui. Et mais parce que... je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'explique parce que l'homme peut faire du sport beaucoup plus longtemps que la femme. C'est comme ça que je l'explique. Je ne sais pas. Ou alors peut-être parce que... Elle n'a pas eu l'occasion, l'opportunité de faire des études plus poussées. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui jouent au bridge, trompez-vous. Mmh. Je dirais même que il y a de plus en plus de femmes qui jouent au bridge maintenant que des hommes.
Oh. Ah oui. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez trouvé un équilibre au niveau de votre besoin de bridger avec vos amis proches?
Je l'ai trouvé parce que j'adore ces gens-là, ils sont très intelligents, très humains, et j'ai compris, ils ne sont pas jeunes, même s'ils le sont beaucoup plus que moi, mais j'ai compris que je ne pouvais pas attendre d'eux de devenir de bons bridgeurs. Mmh. Et moi, lorsqu'on fait un bridge, comme nous allons faire après-demain, parce que nous jouons une fois par semaine ensemble, j'ai compris que c'était avant tout la convivialité.
Absolument.
L'amitié. Ouais. Et puis, des personnes qui ont déjà un vécu douloureux et que ça leur faisait du bien d'en parler un petit peu, mais ça leur faisait encore plus de bien de l'oublier. Alors, ce ne sont pas vraiment, vraiment ce que j'aimerais leur apprendre au bridge. Ce sont des soirées entre amis où on mange, on grignote, on boit un peu, raisonnablement,
bien sûr.
Et puis on rigole beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut rire? Mais qu'est-ce qu'on peut rire? Et c'est formidable. C'est formidable parce que les occasions de rire à l'heure actuelle, elles sont rares. Hein, très, très rares. Alors, si on ne les crée pas, si j'exige d'eux une attention soutenue, continue, etc., ils vont se décourager. Les pauvres, hein, ils viennent pas chez moi pour s'embêter. On vient chez moi pour rigoler, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les bridges à la maison. C'est comme ça que je le vois maintenant. Voilà. Maintenant, si un jeune veut vraiment s'y mettre, bon, ben, je continuerai à être le professeur dont vous avez parlé tout à l'heure, mais j'exclus toujours de mes enseignements, qu'ils soient dans le théâtre, dans la musique, parce qu'il m'est arrivé aussi de débuter des gens au piano, j'exclus par principe toute sévérité. Parce qu'il ne faut pas décourager l'élève et puis il ne faut pas briser son rêve. Ça, c'est mon credo à moi. Ne jamais briser le rêve de l'élève.
Merci.
Je veux qu'il continue, même à rêver toute sa vie, Parce que comme disait l'autre dans je ne sais plus quoi, une opérette ou je ne sais pas quoi, il est doux de rêver, il est bon d'espérer.
Quelle bonne parole.
Oui.
Ah oui, c'est agréable d'entendre ça, ouais.
Mais oui, mais et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Parce que, bon, vous êtes comme moi au courant de l'actualité mondiale, je ne dis pas seulement chez nous, mais mondiale. Moi, j'ai une famille qui vit à l'étranger, dans des pays dangereux. Cette fratrie que j'ai tant aimée, parce que pendant la guerre, on a été terriblement proches les uns des autres, les frères et sœurs, parce que papa et maman n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Hein. Ils étaient là pour surveiller les éventuelles sottises. On a été élevés par notre frère aîné, qui hélas est décédé maintenant. Et je suis donc au courant de toutes les atrocités. Et puis je lis beaucoup. J'adore l'histoire. Je suis passionnée d'histoire, mais passionnée. Et je la lis depuis qu'elle est écrite. Hein. Je ne me contente pas des bouquins de maintenant qui sortent quand le prix féminin, le prix Goncourt, parce qu'on leur a foutu une bonne somme d'argent par en dessous. Ça, je ne me fais pas d'illusions. Je sais ce qui se passe dans le monde. Et j'ai décidé que il faut que les gens que je fréquente, qui acceptent de me fréquenter, me prennent comme je suis. Mais moi, je m'engage à ne jamais leur faire du mal, les blesser. Et surtout pas, je le répète, à briser leurs rêves. Parce que sans rêve, mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on ne rêvait pas en ce moment ? Si on ne rêvait pas aux belles choses
Pas grand-chose.
Qu'est-ce qu'on ferait ? Vous pouvez me le dire ?
La Garonne ?
Pardon ?
La Garonne ?
La Garonne, oui, mais vous savez, les suicides, j'en ai vu plein autour de moi, vous pensez bien à mon âge. Bon, on ne sait pas. Alors, vous avez deux sortes de suicides. Vous avez l'appel au secours. Celui-là, le suicide, à tous les coups, il est raté. C'est celui que j'appelle l'appel au secours. Puis après, vous avez le vrai suicide. Celui-là, vous ne savez pas. Un beau jour, vous apprenez qu'un tel ou une telle s'est suicidé. Mais personne n'a jamais su et ne saura jamais au dernier moment ce qu'il a pensé. Parce que je dis que l'acte le plus difficile que l'homme ait à commettre sur Terre, c'est de mourir. Ça ne doit pas être facile, hein ?
Je ne pense pas, non.
Voilà, alors même ceux qui se suicident vraiment, qui vont au bout de leur décision, on ne sait pas ce qu'au dernier moment, ils pensent, s'ils n'ont pas un sursaut de sauver leur vie, de survie. On ne sait pas, on ne sait rien. Voilà.
Je pense que quand on est à ce niveau-là de désespoir, de détresse, je pense qu'on est comme drogué. On n'est plus...
Dans son état normal, absolument. Bien sûr. Mais est-ce justement...
Et que du coup, on perd la conscience de ce qu'on peut faire.
Ce pas terrible qu'on doit faire, est-ce que ça ne vous remet pas sur les rails au dernier moment ? Je n'en sais rien. Et personne ne pourra nous le dire. Parce que personne n'en est revenu. Voilà. Mais il faut absolument avoir une occupation. Et ce que je déplore...
Je vous vois très bien en tant qu'enseignante, professeur, pédagogue. Je pense que ça doit être un bonheur d'apprendre quelque chose de vous, parce que vous avez plus d'une corde à votre arc. Donc,
ah oui, donc, ah oui, ça j'en ai des histoires à raconter. Et mon frère aîné me disait toujours, mais pourquoi tu n'écris pas des romans ? Et je lui répondais, parce que je n'ai pas l'esprit créatif. Mais j'en ai des choses à dire. Mais à ce sujet, je vais vous raconter quelque chose aussi. Ce frère aîné qui était mon parrain de surcroît. Bon, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, ça aussi. Bon, la fratrie servait de marraine ou de parrain. Bon. Et mon frère aîné qui est décédé depuis, qui me manque tant. C'est peut-être avec mon père les deux seules personnes décédées autour de moi qui me manquent le plus. Et plus que ma mère même. Et c'est bizarre. Et mon frère aîné, très très malade, a commencé à écrire ses mémoires. Avant de quitter ce peu de fange, nous sommes. Ça, c'est de Musset, hein, la citation. Hein. Il n'a pas eu le temps de les finir, mais je les connais bien, ces mémoires, parce que je lui faisais les corrections, moi. Parce que là aussi, on faisait des dictées qui n'étaient pas préparées, comme maintenant. Il ne fallait pas faire de faute, parce qu'à chaque faute, 4 points sautaient. Hein. Alors, on avait vite fait d'attraper un zéro ou... Et pour avoir la moyenne, c'était difficile. Enfin bref, on travaillait. Bon. Donc, j'ai corrigé les mémoires de mon frère. Et puis, il est passé de l'autre côté du rideau. Alors ça, c'est Goethe, dans Les souffrances du jeune Werther. Il est décédé. Et j'ai donné ses mémoires, qui ne sont pas terminées, à lire à mon petit-fils aîné, qui les a lus. Et puis quand il me les a rendus, je lui dis « Alors qu'est-ce que tu en penses ?» Et il me répond « Oh grand-mère, il écrivait de beaux romans, oncle Pierre. » Et là je lui dis « Ce n'était pas un roman, c'est la vie qu'il a eue. » Et mon petit-fils me répond « Pas possible !» Bien sûr que j'aurais des tas de trucs à dire dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
Je vous propose que ça fasse le sujet d'un prochain épisode.
Que
ça fasse le sujet d'un prochain épisode. On va lancer une série.
Ben, si vous voulez. Si vous voulez.
Est-ce que, ben, avec grand plaisir. D'oreille,
mais ça, c'est la guerre aussi.
Avec grand plaisir. Elisabeth, est-ce que vous auriez un message à faire passer avant qu'on rende l'antenne?
Avant qu'on rende...
Est-ce que vous avez un message à faire passer? Avant qu'on arrête l'interview.
Oui, bien sûr, on va l'arrêter parce que...
Parce que vous devez aller, vous avez un rendez-vous.
Je suis pressée, moi aussi. Le message que j'ai à passer... Ah, il y en aurait tant, mais il y en a un qui, pour moi, est très, très important. Soyez indulgents.
Merci.